Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous pour tenter de comprendre et d'analyser la situation inédite dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons besoin ce matin d'un peu de recul et peut-être aussi de beaucoup de philosophie. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de recevoir le philosophe, académicien, essayiste Alain Finkielkraut. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être là. La France, depuis dimanche dernier, a basculé dans l'inconnu. En l'espace d'une semaine, tout a été envisagé et son contraire également. Nous consacrons ce grand rendez-vous à votre analyse, Alain Finkielkraut, et pour vous interroger, je vais saluer mes camarades, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, Mathieu.
Bonjour.
Mais tout d'abord, Alain Finkielkraut, une première question sur la décision que vient de rendre la Cour suprême américaine sur le droit à l'avortement. Déjà, plusieurs États US sont revenus sur ce droit. Quel regard vous portez sur ce bouleversement ?
Alors, cette décision est révoltante, mais elle n'est pas surprenante. Les juges nommés, elle figurait dans le cahier des charges des trois juges nommés par Donald Trump. Alors, la Cour suprême américaine a dit que l'arrêt précédent autorisant l'avortement devait être révoqué parce que il ne revient pas au juge de prendre une décision pareille. Alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait, ils ont usé de leur pouvoir en révoquant l'arrêt précédent tout en faisant mine de s'en dessaisir. Et là, nous devons nous interroger sur la survie de la séparation des pouvoirs dans les sociétés occidentales. La séparation des pouvoirs est un principe essentiel de la démocratie. Nous avions l'habitude, hélas, de voir cette séparation bafouée par des exécutifs qui voulaient tout pour eux. C'est les expériences autoritaires et totalitaires du XXe siècle. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir aussi des empiétements du pouvoir judiciaire sur les autres pouvoirs. La démocratie ne doit absolument pas être le gouvernement des juges. Et puis, je m'inquiète aussi parce que s'aggrave avec cette décision révoltante la division, la fracturation, d'autres l'ont dit avant moi, de la société américaine. C'est comme si de plus en plus deux démences se faisaient face et se renforçaient l'une l'autre.
Deux démences ?
D'un côté, la démence trumpiste, c'est la volonté de Dieu, a-t-il dit pour commenter la décision de la Cour suprême, et de l'autre côté, la démence wokiste qui, après avoir ravagé les campus, se répand aujourd'hui dans certains médias et dans les grandes entreprises. Et cette situation me paraît très, très inquiétante.
Certains en France, Alain Finkielkraut, sont tentés de donner un écho à ces événements pour assurer une meilleure protection, évidemment, de ce droit à l'avortement et le figer, le sanctuariser dans la Constitution. On l'a entendu hier, c'est la majorité présidentielle, mais aussi une partie de la NUPES, la France Insoumise. D'abord, est-ce que c'est une réaction avisée ? Est-ce qu'il faut protéger ce droit et le figer dans la Constitution ?
Non, je crois que c'est une réaction politique et même politicienne. La France n'est pas encore, mais enfin n'est pas l'Amérique. La situation est extrêmement différente. L'interdiction de l'avortement ne figurait au programme d'aucun parti, ni pour les présidentielles, ni pour les législatives. Simplement, en prenant cette initiative, la coalition majoritaire oblige la gauche à voter avec elle et donc s'est préparée aussi éventuellement les compromis de demain. Alors certaines néo-féministes nous disent non, rien n'est acquis, regardez 89 députés du Rassemblement National. Mais je le répète, ce n'est pas le programme, l'abolition de l'avortement, l'interdiction de l'avortement n'est pas au programme du Rassemblement National. Alors, donc, Et en plus, je crois qu'il ne faut toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, peut-être. Et il y a des gens qui, quelquefois, avec des raisons compréhensibles, je n'en partage aucune, s'opposent à l'avortement. Et il ne faut pas les renforcer par une défense trop brutale, inconsidérée de ce droit.
Qu'entendez-vous par une défense inconsidérée de ce droit ?
Alors, je vais vous donner un exemple. Hier, il y a eu, je crois, la marche des fiertés. Oui. Le slogan principal était « Nos corps, nos droits, vos gueules ». Comme si la muflerie était le stade suprême de l'émancipation. Comme si l'incivilité était un gage d'intransigeance. Non, même nos corps, our bodies ourselves, notre corps nous appartient. Ce mot d'ordre ne convient pas parce que il y a un autre dans le corps des femmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'avortement ne peut pas se faire au-delà d'un certain délai. Et il ne faut pas augmenter ce délai de manière inconsidérée pour le coup. Donc il me semble que si l'on veut défendre, si l'on veut consolider, si l'on veut renforcer, comme c'est salutaire, comme il est salutaire de le faire, la loi Veil, il faut en revenir au tact, à la langue et à l'argumentaire de Simone Veil.
Mais Alain Finkielkraut, vous évoquez une décision politicienne, c'est-à-dire la volonté de construire une première majorité circonstancielle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à travers cela une forme de symptôme d'américanisation mentale de la France ? Je m'explique en deux mots. Après 2020, on s'en souvient avec l'affaire George Floyd, elle est vécue en France comme si la France était une extension des États-Unis. Et encore une fois, la France se prête peut-être à vivre un débat américain comme si elle était américaine. Est-ce que ça ne va pas au-delà du calcul politicien ?
Oui, c'est tout à fait saisissant que toute une partie de la classe politique est anti-américaine et en même temps, elle singe l'Amérique. C'est-à-dire, nous vivons l'américanisation aussi sous cette forme. Mais, encore une fois, c'est une parodie. C'est une parodie. Là, la situation française est tout à fait différente de la situation américaine. Et c'est d'ailleurs, on le savait encore en 2017, la question de l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement a été posée. Et Nicole Belloubet et d'autres membres du gouvernement ont répondu que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas utile. Les choses n'ont absolument pas changé depuis 2017.
Ça veut
donc
dire, elle a fait
ce mimétisme imbécile doit cesser.
Ça veut dire reprendre les mots, les textes de Simone Veil aujourd'hui. C'est cette défense-là.
Oui, je pense qu'elle a eu des mots très justes quand elle voulait défendre l'interruption volontaire de grossesse. Et je crois qu'il faut s'inspirer, encore une fois, de sa manière de penser et de son vocabulaire. Mais en même temps, je le dis précisément parce qu'il ne faut pas transiger sur la possibilité donnée aux femmes d'avorter aujourd'hui en France.
Venons-en à la situation politique plus spécifiquement en France, Nicolas Barret.
Une situation d'ailleurs totalement inédite, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec un paysage à l'Assemblée nationale qui finalement ne serait pas très différent si on avait adopté un autre mode de scrutin, un mode de scrutin proportionnel. Est-ce que c'est une bonne chose finalement d'avoir ces équilibres nouveaux ?
Écoutez, je ne suis pas politologue, donc je m'aventurerai sur ce terrain avec prudence. Je pense en tout cas que certains commentateurs exagèrent quand ils parlent de déroute pour les macronistes et quand ils disent que la France va devenir ingouvernable, que nous revenons à l'instabilité chronique de la IVe République. Il faut rappeler que la coalition Ensemble a gagné les élections. Certes, c'est une majorité relative et non une majorité absolue, mais c'est une majorité. Plus de 100 sièges de plus que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et bon, donc, il faut quand même en prendre acte.
On l'a oublié,
et je crois qu'il n'y aura pas d'ingouvernabilité. Une autre forme de gouvernement par le compromis va s'imposer. Ce ne sera pas des coalitions, ce sera au cas par cas, et voilà. Donc...
Même si nous n'avons pas cette culture du compromis en France.
Justement,
ça ne s'acquiert pas en quelques semaines.
En tout cas, on y est contraint aujourd'hui. Alors, cela étant, oui, c'est quand même un vote sanction pour Emmanuel Macron, d'autant plus qu'une majorité de sondés sont très contents de ce qui arrive. Même, donc, ça veut dire que certains électeurs des macronistes se réjouissent de cette nouvelle assemblée et du fait que Emmanuel Macron va devoir composer avec d'autres partis. Et alors, cette sanction est quand même étonnante. On pensait que dans l'élan de la présidentielle, Emmanuel Macron allait obtenir une majorité absolue. Que s'est-il passé ? Je relève d'abord, et nous en parlerons peut-être tout à l'heure, la gestion désastreuse des événements du Stade de France. Et il y a aussi cette étrange création du CNR, du Conseil National de la Refondation, en pleine campagne législative. C'était une manière, comme l'a dit Pierre-Henri Trévoyau, de dissoudre l'Assemblée nationale au moment de son renouvellement. Et puis,
il a été abandonné, ce conseil.
Oui, c'était un argument lancé étrangement par Emmanuel Macron en pleine campagne. Et puis, il y a eu aussi la nomination de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale. Et ça, c'est très important.
C'est très important. On va s'y arrêter, Alain Finkielkraut, marquer une très courte pause.
Ah bon ?
Eh bien déjà, oui, ça passe vite avec vous. Et évoquer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ces compromis, ces coalitions. Et Pape Ndiaye, ce matin, dans Le Parisien, dit « jamais avec le Rassemblement national ». Donc on parlera de ce cercle de la raison. Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et avec un peu de recul, nous analysons la situation politique inédite de notre pays. Nous venons de parler des compromis, c'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Mais compromis avec qui, justement, Alain Finkielkraut ? Puisque ce matin, dans Le Parisien, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, affirme qu'il n'est pas question, évidemment, selon lui, d'avoir des compromis avec le Rassemblement national. Il dit que c'est sa boussole politique qui l'en empêche. Comment vous réagissez ?
Il a une boussole qui ne fonctionne pas très bien parce que, d'après ce que j'entends, il ne dit pas la même chose à propos d'une France insoumise, alors que celle-ci ne dédaigne pas, et nous en parlerons j'espère, de collaborer avec l'islamisme en manifestant son désir d'abroger la loi contre le séparatisme. Mais cette nomination de Pape Ndiaye, Emmanuel Macron l'a pensée comme un coup. Il s'est dit, je vais déstabiliser la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'adresse un clin d'œil à l'électorat de la France insoumise. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné. Mais simplement, on a affaire avec Pape Ndiaye, un ministre qui a pris dans ses déclarations récentes le contre-pied exact de son prédécesseur, de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer s'inquiétait du mouvement woke à l'université. Pape Ndiaye déclarait en même temps que le wokisme, le vrai problème de l'université, ce n'était pas le wokisme, c'était les groupes paramilitaires fascisants. Jean-Michel Blanquer voulait mobiliser les professeurs contre l'islamo-gauchisme. Pape Ndiaye disait, lui, l'islamo-gauchisme est un épouvantail qui ne sert qu'à stigmatiser les vraies recherches. Et avec ce coup, Emmanuel Macron marquait le peu d'intérêt qu'il portait véritablement à l'éducation nationale. Passer ainsi de Blanquer à Pape Ndiaye pour des raisons électorales, c'est grave, c'est très inquiétant, parce que l'État actuel de l'école requiert autre chose.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans la caricature des... je vous pose la question parce que le ministre de l'Éducation estime que ses propos sont caricaturés, que ses livres sont résumés, que sa pensée est amputée.
Oui. Non. Écoutez, ces propos ne sont pas caricaturés, ils sont cités exactement, mais ce que dit Papandiaï, relayé par toute une presse ultra complaisante, une presse qui par ailleurs va éplucher tous les discours, tous les propos d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, etc. Là, il n'y a rien et on vous explique que c'est l'extrême droite qui ne se résigne pas à la nomination d'un noir à un ministère régalien. Alors que si Emmanuel Macron avait choisi, par exemple, Éric Fassin comme ministre de l'éducation, Éric Fassin, porte-parole français du wokisme américain, les protestations auraient été encore plus vives. Mais cela n'a aucun sens, mais c'est grave, parce qu'encore une fois, le problème le plus terrible auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la crise de la transmission qui est en même temps une crise de civilisation. Et Emmanuel Macron répond par un coup ou alors par une sorte d'invocation de l'école du futur. Au moment même où l'école doit impérativement renouer avec son passé républicain. Qu'est-ce que sera l'école du futur ? L'école des gadgets ? L'école des ordinateurs ? Il importe au plus haut point de déconnecter les élèves le temps qu'ils apprennent quelque chose. Surtout que les écrans vous donnent l'illusion que tout est à portée de main, que tout est disponible. Ils vous font oublier que c'est par une lente conquête qu'on acquiert le savoir, que le savoir est une assaise. Et donc, je suis catastrophé par cette attitude. Et quand je dis renouer avec l'enseignement républicain, je pense notamment à un philosophe oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment le grand penseur de l'idée républicaine, Charles Renouvier. Bien sûr. Renouvier s'élevait contre la bourgeoisie, contre les bourgeois, peu amis de l'égalité, qui élèveraient les ouvriers à leur propre niveau.
Vous venez de dire renouer avec l'enseignement républicain, oui, comme s'il ne l'était plus.
Mais non, il ne l'est plus. Parce que
dans notre pays, l'enseignement n'est plus républicain.
Non, absolument pas. Il y a un front républicain qui devrait s'intituler le front post-républicain. Parce que Renouvier ajoutait que ces bourgeois peu amis de l'égalité cherchaient à pousser leur progéniture vers des positions que celle-ci ne peut pas tenir. C'est pourquoi, ajoutait-il, il faut instaurer sans relâchement une forme de sélection. La sélection contre la cooptation.
Mot. Bien sûr. Le mot tabou.
Mais
attention.
Il le disait, oui, au nom de l'égalité. Or, aujourd'hui, au nom de l'égalité, on criminalise la sélection. Ce qui conduit à abandonner l'exigence et à mettre l'école dans l'état déplorable où elle est aujourd'hui. Donc non, l'idée républicaine a déserté l'école.
Vous-même dans un état particulier.
Et Blanquer a voulu la réintroduire. Oui. Et voyez le résultat.
Mais alors, permettez-moi de revenir sur Papandiaï. Vous dites que c'était présenté comme un coup politique à la manière d'un clin d'œil à l'électorat, oui, ou à la France insoumise. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous êtes inquiété de l'émergence de la NUPES, de la France insoumise qui prend le dessus sur les autres composantes de la gauche. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce resurgissement de la gauche dite radicale?
Il est intéressant, justement, que vous parliez de la gauche radicale. C'est sous la direction de la gauche radicale que s'est opérée l'Union. Ce qui est une première dans les précédentes expériences du Front populaire à la gauche plurielle, c'était sous la direction de la gauche modéré. Mais que veut dire aujourd'hui gauche radicale ? Certes, il y a un versant anticapitaliste qui conduirait d'ailleurs, avec l'augmentation massive des impôts, notamment à l'évasion fiscale, à une poursuite des délocalisations. Et les premières victimes de ces mesures, ce seraient évidemment ceux qui sont supposés en être les bénéficiaires, parce que le chômage augmenterait inévitablement. Mais il y a un autre aspect dans la nouvelle identité de gauche. C'est quoi ? C'est le multiculturalisme et l'anti-laïcité. Car il faut être très clair, nous vivons un moment très grave. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, en 2017, à Épinay. Il a dit « Les jeunes des quartiers, c'est la Nouvelle France.
Oui, » le nouveau peuple.
la nouvelle France, le nouveau peuple. La nouvelle France et le nouveau peuple. C'est sur cette nouvelle France que nous devons nous appuyer pour tout changer. C'est une stratégie terrible parce que s'appuyer sur cette nouvelle France, c'est faire bon accueil à l'islamisme au moment où celui-ci se déchaîne. Et donc, plus il se déchaîne, plus on manifeste contre l'islamophobie. Mais pire encore, mais d'ailleurs, ça va de pair, c'est faire bon accueil au nouvel antisémitisme. Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
Alain Finkielkraut, pourquoi vous mettez un signe d'égalité entre le nouveau peuple tel que l'a théorisé Jean-Luc Mélenchon et immédiatement islamisme et nouvel antisémitisme?
Mais
en quoi sont-ils générateurs?
Mais lui le fait, pas moi. Mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui manifeste contre l'islamisme. C'est lui qui veut abolir pour conquérir ces voies-là. La loi sur le séparatisme. Et c'est lui qui, à chaque fois qu'on lui parle de communautarisme, désigne le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, d'un doigt vengeur. Et quoi ? Et qui est arrivé au Parlement ? C'est Daniel Obono. C'est la même Daniel Obono qui disait au lendemain des tueries de Charlie qu'elle ne pleurait pas Charlie, mais que ceux et celles qui pleurent Charlie n'avaient pas un mot quand on interdisait les spectacles de Dieudonné, le même Dieudonné qui faisait monter sur la scène de la main d'or Forisson.
C'est-à-dire qu'une partie des Français, a fait rentrer à l'Assemblée nationale les députés que vous accusez, que précisément et nommément d'antisémitisme et de complaisance avec l'islamisme.
Émeric Caron, il y a une émission de télévision, On n'est pas couché, où il était chroniqueur, où il s'est rendu célèbre. Il a face à lui Alexandre Arcadi, oui, qui a fait un film sur les derniers jours d'Ilan Halemi, assassiné, torturé et assassiné par le gang des barbares. Que répond Émeric Caron ? Il a dit, vous n'avez pas honte, vous ne parlez pas des assassinats des enfants palestiniens par l'armée israélienne. Et Daniel Obono et Daniel Simonet, en pleine campagne législative, font un accueil triomphal à Jeremy Corbyn, mis au banc de son parti à cause de sa complaisance envers l'antisémitisme. Et disait notamment Jeremy Corbyn ? Il disait ceci. Il disait que les sionistes britanniques qui ont vécu dans ce pays depuis très longtemps, probablement toute leur vie, ne comprennent pas l'ironie anglaise. Voilà comme parler.
Défendent, les députés, les insoumis s'en défendent, affirment que vous et d'autres, à la Finkielkraut, vous les caricaturez, qu'ils ne sont pas complaisants.
Écoutez, il y en a marre. À chaque fois qu'on les cite, on les caricature. Donc, ça veut dire qu'ils se caricaturent eux-mêmes. Et puis, surtout, c'est là pourquoi je vais être solennel. Après l'apocalypse hitlérienne, on pensait que l'antisémitisme était déconsidéré, disqualifié, déshonoré, pour reprendre le mot de Bernanos, sans appel. Il faut en rabattre. Ce qui nous apparaissait définitif était en fait une parenthèse. Nous sortons de cette parenthèse heureuse. Les Juifs ne peuvent plus dire « heureux comme Dieu » en France. Ce n'est plus possible et ce sera d'autant de moins en moins possible avec, en effet, ce changement démographique. Les Juifs ne sont que 600 000. Ils ne font pas le poids. Et la France insoumise, au lieu de s'inscrire dans la glorieuse tradition dreyfusarde de la gauche, fait cause commune avec ce nouvel antisémitisme et elle le fait d'autant plus facilement qu'à niveau mondial, toute une partie de la gauche a changé. Elle oppose les dominants aux dominés et les Juifs, en dépit de leur long passé de persécution, ne font plus partie des dominés. La Shoah a cessé de la protéger, puisque même sur certains campus, on les accuse de rééditer la Shoah sur les palestiniens. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les Juifs ne sont pas des dominés, ce sont des blancs et même des super blancs racistes irrepentis, comme en témoigne, selon eux, la politique israélienne et le soutien massif majoritaire des Juifs à l'existence d'Israël.
Vos propos sont frappés, on l'entend ce matin, du sceau de la gravité. On va marquer une courte pause, on va vous faire réagir. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, à ce que vous dites et poursuivre cette analyse qui va au-delà, on l'a compris, hein, de la France et notre situation politique. Une courte pause et on se retrouve sur nos antennes communes.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité ce dimanche, Alain Finkielkraut. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
Alors on a vu à Avignon une fresque qui a suscité de vives réactions où on voyait de mémoire Jacques Attali à la manière d'un grand manipulateur et Emmanuel Macron à la manière du manipulé par le manipulateur Attali. Les réactions sont vives. Quelle est votre réaction devant cette fresque et devant le débat qu'elle a entraîné?
C'est tout à fait extraordinaire parce que le mythe de la puissance juive reprend des couleurs avec l'émergence de ce nouvel antisémitisme, à un moment même où les Juifs doivent se compter et se rendent compte, encore une fois, qu'ils ne pèsent presque plus rien. C'est ça qu'il faut constater. Voilà. Qu'est-ce que c'est que 600 000 Juifs au regard du changement démographique que connaît aujourd'hui la France? Comme on dit à l'Académie française, « peanuts ». Donc, je veux dire, c'est d'ailleurs ce que sentent très bien, je le répète, les insoumis, parce que j'ai donné quelques exemples. Mais Raquel Garrigaud, si Blanquer, je la cite, donc je la caricature, bien sûr, si Blanquer s'était opposé au port de la kippa dans les sorties scolaires, il ne serait plus ministre. Je ne sais pas, j'ai peut-être trop de flair, mais je sens quelque chose de très, très antipathique. De même, leur défense invraisemblable de Taha Bouafs, vous savez, celui qui devait être candidat de la France insoumise aux législatives, qui a été retiré parce qu'il avait subi des accusations d'agression sexuelle, mais qui a été défendu jusqu'au bout par Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, lesquels dénonçaient en chœur la meute raciste contre lui, alors qu'il avait fait, sur certain nombre de tweets, des déclarations proprement judéophobes.
Mais diriez-vous, de ce point de vue, que selon que l'antisémitisme soit marqué d'extrême droite ou d'extrême gauche, il peut y avoir une très forte condamnation ou une indulgence ou une forme de tolérance?
Indulgence, tolérance ou déni? Là encore, les programmes de reconquête, les programmes de Rassemblement national ont été épluchés par la presse bien pensante, mais cela n'a pas été le cas pour le programme de la NUPES, ni pour ce qu'on pourrait appeler les dérapages de la France insoumise. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils disent des choses pareilles et en réalité, ils n'ont à répondre de rien parce que tout le monde s'extasie, disons, dans une certaine gauche, dans une certaine presse, devant l'union actuelle. On dit que le Front populaire est ressuscité, mais soyons clairs, Léon Blum n'aurait pas sa place dans la NUPES. Ce ne serait pas possible, il ne souhaiterait pas y être, et de toute façon, on l'évincerait parce que sa présence risquerait de froisser la nouvelle France. Nous en sommes là, et je regrette infiniment l'attitude des socialistes qui ont vendu leur âme pour quelques circonscriptions. Peut-être n'avaient-ils pas d'autre choix. Ils étaient sans doute menacés de disparition et peut-être que cette union ne va pas durer trop longtemps. Mais je plaide, moi, pour une résurrection de la gauche.
Mais à vous entendre, résurrection de la gauche, dites-vous, à vous entendre, le plus grand ou l'un des plus grands dangers dans notre pays s'appellerait Jean-Luc Mélenchon?
En tout cas, Je ne voudrais pas personnaliser les choses, parce
que
visiblement, il y en a d'autres.
Vous avez tous cité, oui.
J'ai cité Jean-Luc Mélenchon, j'ai cité Alexis Corbière, Raquel Garrigaud et d'autres. Enfin, ils sont à l'unisson sur ce thème, sur cette espèce de complaisance à l'égard de l'islamisme, de l'antisémitisme, parce que en 2017, c'est, je crois, Éric Coquerel, encore un, qui a dit à Jean-Luc Mélenchon que les voix qui lui ont manqué pour arriver au deuxième tour, il aurait pu les puiser dans ces quartiers-là. Et il faut rappeler que la France insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. Ils ont tout gagné. Donc, ils misent, alors que, évidemment, la notion de grand remplacement leur est odieuse. D'ailleurs, personnellement, je ne la reprends pas à mon compte. Mais ils misent, eux, oui, mais sur le grand remplacement pour arriver un jour ou l'autre
au pouvoir. Mais expliquez-nous, Alain Finkielkraut, pourquoi il ne faudrait pas parler à cette partie de la France.
Mais il faut lui parler.
Alors
mais
comment faut-il lui parler,
Mais il ne faut pas lui parler en lui tendant le miroir de son propre antisémitisme ou de l'islamisme. Il faut lui parler généreusement. Il faut lui dire que... avant de leur dire qu'ils sont une chance pour la France, il faut leur dire que la France est une chance pour eux et qu'ils doivent la saisir et leur expliquer comment faire, leur parler de l'école républicaine. Bien sûr que nous devons nous adresser à eux, et peut-être même de manière prioritaire, mais dans un langage de vérité et non dans une langue de séduction.
Mais qui a oublié de leur parler pendant des années ? Tous ceux qui ont oublié de leur parler pendant des années ne sont-ils pas responsables aujourd'hui de ce que vous dénoncez finalement ?
Ils ne sont pas responsables de...
Du fait que seul Jean-Luc Mélenchon parle à cette partie de la France.
Oui, mais d'abord, je n'en suis pas sûr. Mais si parler à cette partie de la France, c'est céder à ce qu'elle a de plus obscurantisme, je trouve que nous allons vers la catastrophe.
Mais à propos d'obscurantisme, est-ce que vous voyez une filiation entre ce nouvel antisémitisme et puis l'antisémitisme d'avant la Shoah ?
Disons que... l'antisémitisme n'a jamais été exclusivement d'extrême droite. Mmh. Il y a eu aussi un antisémitisme de gauche au XIXe siècle. Et on sait même que les socialistes, au moment de l'affaire Dreyfus, étaient très partagés. Mmh. Jaurès, après quelques hésitations, a pris le parti de Dreyfus. Il a écrit ce livre Admirable, l'épreuve. Et Jules Guesde, de son côté, lui disait « On n'a pas à nous en mêler, c'est une affaire de bourgeois. Mmh. » Et Dreyfus, surtout, ajoutaient les socialistes allemands, doit être coupable parce que la bourgeoisie ne s'acharnerait pas contre l'un des siens. Et puis l'association des juifs et de l'argent, disons, ça fonctionnait très fort, non seulement chez les socialistes utopistes, mais même chez Karl Marx dans son livre La question juive. Donc oui, l'extrême droite n'a jamais eu le monopole de l'antisémitisme, mais l'affaire Dreyfus a joué un rôle capital dans la conversion de la gauche à la lutte contre l'antisémitisme, et nous sommes en train de revenir sur cette conversion.
Alors, Alain Finkielkraut, vous nous mettez en garde, contre justement ce nouveau péril qui vient de la gauche radicale. Pourtant, le discours public dominant laisse croire que le véritable péril demeure le Rassemblement national, demeure ce que certains appellent l'extrême droite. Est-ce que pour vous, le Rassemblement national, tel qu'il entre à l'Assemblée nationale aujourd'hui, demeure un péril central pour la France, ou est-ce qu'il a changé de nature ?
Je ne me réjouis pas personnellement de cette entrée massive des députés du Rassemblement national à l'Assemblée, non pas parce que j'y vois le retour de la bête immonde, pas du tout. Le Rassemblement national n'est pas un parti fasciste, ni même factieux. Ce qui m'inquiète bien plutôt, c'est d'abord son tropisme poutinien, et aussi, je me souviens très bien, de l'attitude adoptée par Marine Le Pen et les siens au moment de la crise du Covid. Attitude démagogique, aucune nostalgie de la dictature. Au contraire, on jouait les libertés individuelles contre des mesures d'intérêt général. C'était démagogique, c'était irresponsable. Mais ça n'a rien à voir avec le retour de la boîte immonde. La raison pour laquelle des électeurs ont voté massivement pour le Rassemblement national, cette raison est très estimable. Ils éprouvent une angoisse existentielle. Ils veulent que soit défendu un droit fondamental, aussi bien pour Ortega y Gasset que pour Simone Veil, mais la philosophe cette fois, le droit à la continuité historique. Ils pensent que ce droit est menacé. Ils ont raison de le penser, et la perpétuation de ce droit devrait être l'obsession de tous les partis. C'était l'obsession de Jean Daniel. il faut se reporter à son livre testamentaire, réconcilier la France. Il dit, on ne s'est pas inquiété de savoir ce que devenait le visage de la France lorsqu'insensiblement, elle passait d'un État laïque fort à un État multicommunautaire faible. Et surtout, dans l'épilogue de ce livre, publié un an après sa mort, il raconte des entrevues avec François Mitterrand et il n'arrêtait pas de parler à Mitterrand de l'immigration et de la crise de l'intégration. Cela avait le don d'exaspérer le président de la République. « Ce que vous me dites n'est pas juste, l'intégration marche beaucoup mieux que vous n'imaginez. La France a une telle force de civilisation. » Malgré cet agacement, je termine, Jean Daniel insiste. « Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par deux minarets. » C'est Jean Daniel qui parle. Et à ce moment-là, Mitterrand dit « Vous parlez comme Le Pen. » Fin de la discussion.
Père, et c'est ça, évidemment,
c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met le doigt sur une réalité terrible, on parle comme Le Pen, et donc on n'a plus la possibilité de voir ce qu'on voit.
C'est ce qui va être peut-être dit de vous après l'émission, ce que vous parlez comme l'extrême droite, parce que vous avez pointé cette angoisse existentielle, ce droit à la continuité.
Ben oui, mais donc je ne parle pas comme l'extrême droite, je parle comme Jean Daniel. Je dis simplement que ceux qui font le jeu du Rassemblement national sont les mêmes qui dressent un cordon sanitaire autour d'une réalité qui est interdite de regarder en face.
Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Puisque le Rassemblement national a rompu avec la figure paternelle, a rompu avec toute une série de choses. Qu'est-ce qui manque pour que le Rassemblement national, aujourd'hui, puisse être considéré comme un parti à l'intérieur du cercle le périmètre républicain, selon certains? Quelle dernière mue est nécessaire pour ce parti, selon vous?
Je ne suis pas d'accord avec Papendia, qui n'a eu aucune déclaration digne de ce nom sur l'état de l'école, mais qui, de tweet en interview, nous rappelle qu'il faut se mobiliser contre le Rassemblement national. Non, je ne raisonne pas en ces termes. Je combats certaines thèses et certaines orientations du Rassemblement national, mais je n'irai jamais dire que c'est un parti anti-républicain. Il devrait s'interroger sur son attitude pendant la pandémie. Il devrait en finir avec ce tropisme poutinien et trumpiste au demeurant. Je n'oublie pas cela non plus. Bon, il a aussi un certain nombre d'améliorations à effectuer, mais c'est une commodité absurde que de sortir le Rassemblement national du cercle européen, d'autant plus qu'on sort avec lui la réalité qu'on ne veut pas voir, toutes les mauvaises nouvelles idéologiques en quelque sorte. Et ça, c'est très grave.
Alors, quand on sort toutes ces mauvaises nouvelles, c'est une forme, c'est du déni, c'est même pas une forme, c'est du déni. Et vous estimez, Alain Finkielkraut, on va marquer une pause et en parler, qu'il y a eu un déni très important sur des événements qui ont attristé beaucoup de nos citoyens, parce qu'il en va de l'image de la France, évidemment. Ce sont les événements du Stade de France. Ont-ils été un carburant à la poussée du Rassemblement national aussi? On se retrouve dans à peine une ou deux minutes.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et au moment où une actualité chasse l'autre, où les événements sont zappés, parfois oubliés, même s'ils laissent des cicatrices et des traces, nous avons voulu revenir avec vous, Alain Finkielkraut, sur les événements. Ils sont ainsi appelés peut-être pudiquement du Stade de France. En tous les cas, ils ont laissé une cicatrice dans le cœur de beaucoup de Français, attachés évidemment à l'image de ce pays. Avec un peu de recul, comment vous les analysez, ces événements ?
Oui, c'est vrai, un événement chasse l'autre, mais ce qui s'est passé au Stade de France n'est pas oublié et prend de plus en plus d'ampleur à mesure que les semaines passent. C'est tout à fait normal, parce que la gestion de ces événements a été désastreuse et en même temps emblématique. Le ministre de l'Intérieur a menti. 40 000 faux billets, il y en a eu, dit les instances du football, 2600. Il a voulu donc pointer le doigt sur les pauvres supporters anglais, asperger de gaz lacrymogène, en oubliant complètement les faits de délinquance. Et quand une sénatrice a voulu les rappeler, et en s'interrogeant sur l'origine
Jacqueline
des délinquants,
Eustache-Brignaud,
il a accusé Gérald Darmanin de propos nauséabonds. Le nauséabondisme est partout. Et c'est d'autant plus étonnant de la part du ministre de l'Intérieur, parce qu'il semblait être au gouvernement celui qui gardait les yeux ouverts, le préposé au réel. Et non, même lui, c'est « eyes wide shut ». Non, on ne veut rien voir. Et alors, ce qui est le plus symptomatique, c'est évidemment la destruction des images de vidéosurveillance. Ça en dit long sur le monde dans lequel on vit. Si vous voulez. Toute une partie de l'opinion ou des faiseurs d'opinion a identifié l'exclusion et la discrimination comme la source de tous les maux, l'ultima ratio de l'histoire, si vous voulez. Et tous les faits, toutes les réalités qui contreviennent à cette vision sont impitoyablement mises à l'écart, chassées, effacées. C'est ça la véritable cancel culture. Et effacées quelquefois par ceux qui nous gouvernent et effacées tout le temps par une grande partie de la presse. C'est tout à fait saisissant. C'est-à-dire qu'on va dénoncer sans cesse, à la suite d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, les violences policières. Son « la police tue » ne lui a pas valu le discrédit général, comme si c'était l'institution elle-même qui était coupable et comme si les policiers qui tuent, qui font usage de leurs armes, ne réagissaient pas, notamment un refus d'obtempérer, mais assassiner froidement des gens dans la rue. Donc, la police tue, confirmée donc, par tous ces médias qui insistent sur les violences policières et effacent la banalisation des violences antipolicières aujourd'hui. C'est très étonnant, cette presse qui vous fait vivre dans une réalité parallèle. C'est Pravda française ou américaine, Le Monde, le New York Times, parce que les journalistes de la Pravda, eux, dès lors qu'ils sortaient des rails, ils avaient un coup de fil d'en haut. Donc, ils étaient obligés par Big Brother de mentir, etc., de falsifier. Mais eux, ils ne sont pas obligés. Donc, c'est la presse
donc vous
ou
y
cette
voyez
presse qui est son propre Big Brother.
Une volonté,
c'est stupéfiant.
Une volonté presque collective de masquer, d'effacer, de mettre de côté la réalité.
Oui, et avec d'excellentes intentions, si vous voulez. Il ne faut pas stigmatiser les déshérités. L'enfer est pavé d'élan compassionnel. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ceux qui mentent, ils ne sont pas méchants. Au contraire, ils mentent par gentillesse. Ils disent ces gens ont tellement de difficultés qu'on ne va pas les accabler davantage. Donc, mais on écarte toutes les nouvelles qui pourraient avoir cette conséquence.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une forme d'ultime décomposition d'un antifascisme qui s'est trompé d'époque? Non pas Saham, le réel ne passera pas.
Oui.
Parce que c'est ce qu'on voit finalement, c'est le réel ne doit pas être mentionné s'il contredit le récit officiel des événements.
Vous avez raison, mais c'est encore une fois une manière, c'est ça le cordon sanitaire. Le réel est d'extrême droite. Donc pour ne pas faire le jeu d'eux, etc., on ne va pas parler du réel. Et ceux qui en parlent, ceux qui osent regarder la réalité en face sont immédiatement eux-mêmes stigmatisés. Nous vivons l'époque des listes noires. Depuis la parution du malheureux opuscule de Daniel Hindenberg, Le rappel à l'ordre, Enquête sur les nouveaux réactionnaires, c'était en 2002. Il y avait, c'était la Dream Team. Hein. C'était Marcel Gauchet, Pierre Manant, Philippe Reynaud, Michel Houellebecq, enfin, Philippe Muret. J'aurais été très vexé de ne pas en être. Finalement, j'ai été d'ailleurs désigné. C'est très intéressant parce que je faisais partie de ceux qui dénonçaient une nouvelle vague d'antisémitisme, d'ailleurs sujette à caution. Et Pierre Rosanvallon a réédité ce livre en 2018 en disant qu'il était prémonitoire. Voilà. Donc le mensonge, si vous voulez, l'effacement comme prémonition. Il faut être professeur au Collège de France pour réussir ce tour de force intellectuelle.
Vous êtes une cible, dites-vous, comme d'autres. Toutefois, vous portez votre parole. Vous pouvez le dire, vous
Bien
pouvez
sûr.
Le dénoncer.
Ben, c'est pour ça que je dirais que nous ne vivons certainement pas sous un régime totalitaire. Cela ne me demande pas un courage spécial de m'exprimer comme je vais, d'autant plus que n'étant pas moi-même connecté, si je suis abreuvé d'injures sur les réseaux sociaux, elles ne me parviennent pas. Effectivement, il ne faut pas non plus aller trop loin. La presse que je désigne, c'est une partie de la presse. Simplement, étant vieux, étant plus près de la tombe que du berceau, et ayant moi-même frôlé la mort, je me sens très libre. Donc je n'ai pas besoin de courtiser cette presse pour être sûr d'obtenir un article au cas où je publierai un autre livre. Ça me donne une certaine liberté.
Cette presse n'est quand même pas tout à fait la Pravda. Le monde n'est pas... On ne peut pas assimiler le monde à la Pravda comme
sûr.
Vous l'avez fait un peu rapidement.
Pas mais tout à sur, fait, sur mais il fait beaucoup d'efforts pour s'en rapprocher.
Sur ces événements du Stade de France, vous pouvez revenir juste une seconde. Pour vous, c'est à l'origine du succès électoral récent là, du Rassemblement National ?
Oh, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a aussi une exaspération d'un certain nombre de Français, une peur de voir une certaine France disparaître, le dégoût éprouvé pour ceux qui désignent cette France comme la France moisie ou la France. Mais je pense que ces événements ont dû jouer, non pas en tant que tels, si on avait appelé les choses par leur nom. Eh bien, voilà, ça n'aurait pas eu le même effet. Et on aurait pu comprendre que la police soit dépassée. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'elle réagisse à contre-temps. Elle s'attendait à voir des supporters anglais à l'ancienne, alors que ce problème a été résolu en Angleterre, et elle n'était pas préparée à ces attaques, à ces agressions, à ces vols à l'arraché, dans le stade et à la sortie hors du stade, pendant la centaine de mètres qui séparait le Stade de France de la station de métro. Tout ça, et les supporters anglais sont sortis médusés de ce qui leur arrivait et en plus de la calomnie dont ils étaient l'objet.
Je voudrais conclure sur une question plus personnelle, parce que ça nous a interpellé quand vous avez dit « je suis encore plus libre ». On vous a toujours connu libre et les téléspectateurs, les auditeurs n'ignorent pas que vous avez eu des problèmes de santé graves. Vous en avez vous-même parlé. Est-ce qu'il y a eu un moment, un changement, peut-être même dans votre analyse, votre façon de voir le monde et de l'analyser ?
Non, il n'y a pas eu de changement de ce type. Quelquefois, quand je me remémore ces événements, j'en ai une espèce de frisson rétrospectif. Oui, j'ai été hospitalisé un mois, j'ai fait une septicémie, je me rendais compte de rien, mais on m'a dit ensuite que j'ai failli mourir. J'ai subi deux opérations très risquées. Je pouvais en sortir paralysé, puisque c'est mes vertèbres qui avaient été attaquées par une bactérie à l'hôpital Cochin. Donc tout cela, en effet, a été assez terrible. Donc je me vis à la fois comme un rescapé, mais même comme un miraculé. Mais ma vision du monde n'a pas changé. Elle n'est ni plus optimiste, ni plus pessimiste qu'avant. Je regarde les choses de la même façon, mais il est vrai que je me sens encore plus libre que je n'étais.
Eh bien, on était très heureux de recevoir l'homme libre que vous êtes toujours et que vous êtes encore plus. C'est toujours en forme et en verve. Je suis sûre que nos auditeurs et nos téléspectateurs sont ravis également. Merci Alain Finkielkraut pour cette heure passée avec
vous. Merci à vous.
Je remercie mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Et on souhaite un bon dimanche à vous tous qui nous regardez et écoutez. À très bientôt. Europe 1.